Chapitre 7 Les conseils de la pitié. Eugénia voulut dîner et passer la journée à Essrington, qu'elle quitta le soir dans une disposition d'esprit absolument tranquille. Camilla était profondément affectée de toute cette affaire. Les malheurs si peu mérités d'une sœur si chère la firent rougir de l'abattement dans lequel elle tombait au moindre chagrin. Elle résolut de se rendre à l'avenir plus digne d'un père et d'une sœur qui, dans ce moment, attirait toute son admiration. Trop raisonnable, dans une telle situation d'esprit, pour se proposer d'oublier Mandelbert, elle résolut seulement de ne penser à lui que comme elle y pensait avant de l'aimer, d'y penser comme lui-même paraissait le désirer, de lui demander quelquefois ses conseils, et du reste, de rejeter tous les établissements qui lui seraient proposés. Flattée par d'obligeants éloges, satisfaite par la conscience de la victoire qu'elle avait remportée sur elle-même, Eugénia, ranimée, retournait à Clèves. Elle arrivait lorsque la voiture fut arrêtée par un homme à cheval qui, approchant de la portière, dit d'une voix basse et comme s'il eût craint d'être entendu des domestiques « Ah, madame, le sort a-t-il cessé de m'être contraire et puis-je encore espérer de vivre ?» Elle reconnut alors M. Bellamy. Elle n'avait avec elle dans la voiture que sa femme de chambre. Sir Hugh l'avait envoyée parce que Miss Margland était occupée ailleurs. Tout ce qui venait de se passer étant encore présent à son esprit, elle fit en arrière un mouvement involontaire et se cacha le visage avec son mantelet. Bellamy, ne regardant point comme défavorable pour lui cette marque d'émotion, mit une main sur la portière et dit d'un ton de voix plus bas « Est-il possible, madame, que vous me haïssiez avec cette barbarie? Ne daignerez-vous pas même me regarder, après avoir été si longtemps bannie de votre présence ?» Eugénia, pendant qu'il parlait, se rappela que, quoiqu'elle fût nouvelle en quelque sorte à ses propres yeux, elle ne l'était pas pour son interlocuteur, et elle hasarda de découvrir son visage. Le chagrin empreint sur les beaux traits de Bellamy la toucha si vivement qu'elle lui répondit avec douceur « Non, monsieur, en vérité, je ne vous hais point, je suis incapable d'une pareille ingratitude. Mais je vous conjure, je vous supplie de m'oublier. »« Vous oubliez ? Ah, madame, vous me commandez l'impossible. Non, je suis la constance même, et le monde entier ne saurait vous arracher de mon cœur. » En ce moment, Jacob s'approcha de l'autre portière, et, comme Eugénia disait, « Surmontez, monsieur, je vous en prie, ce malheureux penchant. » Il lui dit « Mademoiselle, les chevaux ont fait du chemin, il est temps qu'ils rentrent. » Jacob était l'oracle de Sir Hugh pour ce qui regardait les chevaux. Ainsi, son avis était une loi. Eugénia ne le contrariait jamais. Elle se contenta de dire « Monsieur, ne pensez plus à moi !» et ordonna au cocher de continuer. Bellamy, se soumettant avec respect, resta son chapeau à la main, dit la femme de chambre à Eugénia. Jusqu'à ce que la voiture fût hors de sa vue. Une tendre affliction s'empara de la généreuse Eugénia. Hélas, dit-elle, quelque peu digne que j'en puisse être, j'ai fait le malheur de cet aimable homme. Quoique peut-être et trop probablement, il soit le seul au monde dont j'eusse pu faire le bonheur. Ah, comment osais-je me flatter d'inspirer à Clermont une passion semblable ? Molly Mill, sa femme de chambre, était très jeune. Elle était la fille d'un pauvre fermier de Sir Hugh. De temps en temps, elle interrompait les réflexions d'Eugénia par les siennes. « Pourtant, Miss, quel beau monsieur que cela fait! Il soupirait à fondre le cœur quand vous avez dit « Ne pensez plus à moi !» C'est quelque amoureux, je gage !» Eugénia rentra tellement émue par cet incident que Sir Hugh sentit renaître le trouble et la contrition que lui causaient les malheurs de sa nièce. Et, ne se trouvant pas bien, il alla se coucher avant l'heure du souper. Eugénia se retira de même et se préparait à se coucher, lorsque Molly Mill, toute hors d'haleine, vint en grande hâte lui apporter une lettre. Elle l'ouvrit avec empressement, en demandant d'où elle venait. « Oh, Miss, le beau monsieur, c'est lui-même! Il m'a fait chercher. Moi, je ne savais pas qui me demandait, car Marie m'avait dit seulement qu'un garçon demandait à me parler. Mais le garçon m'a dit qu'il fallait que j'allasse avec lui jusqu'à la barrière, et quand j'y suis arrivée, devinez qui j'ai trouvé, ce beau monsieur. Oui, lui-même. Il m'a remis cette lettre et m'a prié de vous la remettre. Et voyez, Miss, regardez ce qu'il m'a donné pour ma peine. » Alors elle lui montra une demi-guinée. « Vous avez eu tort, Molly, de l'accepter. Vous auriez dû comprendre que cette lettre était déplacée, puisqu'on vous donnait de l'argent pour la porter. » « Eh, mademoiselle, qu'est-ce qu'une demi-guinée pour un monsieur comme lui? Je suis persuadée qu'il en a les poches pleines. » « À présent que je suis instruite de cette circonstance, dit Eugénia, je ne lirai certainement pas la lettre. Donnez-moi de la cire, je vais la recacheter. » Cependant, elle hésita. Devait-elle la rendre, la montrer à son oncle ou la brûler? Le parti qui lui plaisait le moins lui parut, d'après la sévérité de ses principes, celui qu'elle devait suivre. Elle résolut donc de raconter le lendemain matin cette aventure à Sir Hugh et de lui montrer la lettre sans l'avoir lue. Si cette épître ne fut pas venue l'embarrasser, elle s'était proposée de ne point nommer celui qui l'avait écrite. Persuadée qu'elle l'avait absolument découragée, elle croyait que c'était, pour une femme, un devoir de délicatesse de ne jamais se vanter d'un amant malheureux. Après avoir pris sa résolution, elle se coucha, contente d'elle-même, mais affligée des chagrins qu'elle préparait à belle amie. Cependant, le lendemain matin, son oncle ne se leva pas pour le déjeuner. Il était si triste que, craignant de l'importuner, elle crut à propos de différer sa confidence. Mais en remontant à sa chambre, après avoir pris sa leçon du docteur Horborn, elle trouva Molly Mill qui l'attendait avec impatience. « Miss, lui dit-elle, une autre lettre pour vous. Il faut que vous la lisiez sur le champ, car ce monsieur dit que, si vous ne le faites pas, il en mourra. »« Pourquoi l'avez-vous reçue ? » dit Eugénia, mécontente. « Eh, mais Miss, comment aurais-je pu la refuser ? Si vous aviez vu dans quelle peine il était, vous l'auriez prise vous-même. » Il était tout tremblant et prêt à tomber sur ses genoux. Pauvre homme, le cœur m'en battait de le voir comme cela. Il était prêt à perdre l'esprit, disait-il, et de grosses larmes lui coulaient des yeux. Eugénia, vivement affectée, se détourna. « Allons, Miss, continua Molly, écrivez un petit billet à ce monsieur. Quand même il serait tout griffonné, cela lui fera toujours plus de plaisir que rien. Miss, ne soyez pas si méchante. « Tenez, lisez cette petite lettre. Lisez-la donc. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Vous lisez si bien et si vite. »« Pourquoi, dit Eugénia, l'avoir été trouvée? Comment avez-vous pu suivre sans précaution un étranger ?»« Un étranger, Miss? Et ne savez-vous pas que c'était Tommy Hodd? Je le connais bien. Allons, Miss, voilà la plume et l'encre. Vous aurez fait dans un tour de main. Il sera si triste jusqu'à ce que je revienne. » « Comment revenir? Vous avez eu l'imprudence de le lui promettre ?»« Hélas, cher ami, il a bien fallu. Il était resté là depuis 6 heures du matin, sans boire ni manger, montant et descendant le grand chemin jusqu'à ce qu'il me vit venir à la barrière. Il a dit qu'il va rester là sur son cheval, à se promener tout le jour et même toute la nuit, jusqu'à ce qu'il me revoie. » Eugénia se vit alors dans un extrême embarras. Elle obligea Molly de la quitter afin de délibérer sur le parti qu'elle avait à prendre. N'ayant point lu de roman, son imagination était étrangère à toutes les scènes de cette espèce. Et ce qu'elle avait vu dans l'histoire ou dans la fable, sous la direction du docteur Horborn, ne l'avait frappée qu'autant que l'amour portait le caractère de l'héroïsme et l'amant celui d'un héros. Ainsi, ce qu'elle avait de romanesque dans l'esprit n'était pas le résultat des brochures du jour. C'était une certaine élévation de sentiment qu'entretenait en elle l'inexpérience et la crédulité du jeune âge. « Hélas, se disait-elle, quelle est ma situation? Il faut que je refuse un homme qui, malgré tous mes défauts, m'adore jusqu'à la folie pour me livrer à celui qui, peut-être, estime assez la beauté pour me mépriser parce qu'elle me manque. » Cette idée produisit un tel effet en faveur de Bellamy qu'un léger désir d'ouvrir les lettres fit excuser la jeune fille qui les avait apportées. Elle résista cependant à cette velléité, quoiqu'elle les tînt l'une après l'autre sous les yeux, se doutant bien de ce qu'elle pouvait contenir et déplorant pour leur amoureux auteur la triste réponse qu'il aurait à recevoir. Quoiqu'un peu retenue par la honte, elle aurait bien voulu consulter Camilla, mais elle ne pouvait la voir assez tôt. Mistress Arbery l'avait conduite le soir à la représentation d'une pièce que devaient jouer une seule fois des comédiens qui passaient à Norwich. « Il faut donc que je me décide moi-même et sur le champ. Comment laisser cet aimable homme se morfondre sans entendre parler de moi, sans connaître son sort? En m'envoyant ses lettres, il a pleuré. Quel doit donc avoir été son désespoir pour l'affecter à ce point? Un homme verser des larmes, quelle touchante sensibilité! Les siennes alors recommencèrent à couler avec une tendre commisération. Et ce ne fut pas sans une extrême répugnance qu'elle persista dans le dessein de suivre les mesures auxquelles elle crut que son devoir l'obligeait. Elle enferma les deux lettres sous une enveloppe qu'elle cacheta, mit l'adresse à M. Bellamy, fit venir Molly Mill, lui donna l'ordre de les lui porter en lui déclarant positivement qu'elle n'en recevrait plus et d'ajouter que celle qu'elle avait portée n'avait pas été lue. Elle lui recommanda cependant de lui dire qu'elle était reconnaissante du tendre attachement qu'il lui témoignait et qu'elle ferait toujours des vœux pour son bonheur, quoiqu'elle l'invitât à vaincre un sentiment qu'elle ne méritait pas et qu'elle ne devait jamais partager. Molly Mill aurait bien voulu faire quelques remontrances, mais Eugénia, avec cette fermeté que, même dans la première jeunesse, donne le sacrifice que l'on fait de ses penchants à ses devoirs, la fit taire et Molly Mill partit. Soulagée pour elle-même lorsque la crise fut passée, elle se félicita que ce n'était pas pour Melmont qu'elle avait eu ce rôle difficile à jouer. Son embarras se renouvela par le retour de Molly, qui lui rapporta ces mots écrits au crayon sur le dos de sa propre enveloppe. « Je n'ose, ô la plus cruelle des femmes, vous écrire une autre lettre, mais si vous voulez me sauver la vie, permettez que j'entende mon arrêt de votre bouche. Je ne demande rien de plus. Veuillez bien passer un moment dans le parc auprès de la palissade. Ne refusez pas cette seule grâce au malheureux qui vous adore et qui ne quittera pas la place où ce billet est tracé que vous n'ayez daigné lui annoncer vous-même sa destinée. Alphonse Bellamy. » Eugénia lut ces mots avec horreur et compassion. Elle pensa qu'il ne la croyait pas libre et que, par conséquent, il se défiait de toute réponse qu'elle ne lui ferait pas elle-même. Elle lui renvoya Molly avec le même message. Mais Molly revint avec un récit encore plus terrible de son désespoir et l'assurance bien positive qu'avec un mot, un seul mot, il obéirait, s'éloignerait et ne lui demanderait plus rien jusqu'à la fin de sa vie. Ces dernières paroles l'attendrirent tout à fait. Plutôt que de laisser périr un pareil modèle de constance, elle consentit à lui porter son refus elle-même. Mais dans la crainte de se laisser entraîner par son affliction à quelque mouvement de sympathie, elle résolut de se faire accompagner par Camilla. En conséquence, l'entrevue fut remise au lendemain. Molly vint lui rapporter les humbles actions de grâce de Bellamy pour cette promesse et lui dit qu'enfin il s'en était allé, mais lentement et tristement.